Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour le dernier épisode de votre podcast consacré à la F1, avant les grandes vacances, bien sûr. Ça sent le monoï dans le studio, le masque et le tuba sont déjà dans le sac. Stéphane, en revanche, je vais te demander de retirer ta bouée licorne le temps d'enregistrer le podcast parce que c'est pas pratique, je te vois pas derrière ta corde.
On est bien, elle se voit pas, donc on laisse comme ça.
Allez, on va quand même parler de ce Grand Prix de Belgique remporté par Max Verstappen, le néerlandais inarrêtable. Et finalement, le seul qui lui donne la réplique, eh ben, c'est son ingénieur. On reviendra sur les échanges un peu chauds entre Giampiero Lambiadze et le double champion du monde. On va encore parler d'Alpine, parce que les derniers rebondissements marquent sans doute, l'espère, le bouquet final avec 3 départs dans le top management de l'équipe la semaine passée. Et puis on a légèrement dépassé le milieu de la saison, et puisqu'on arrive à la trêve estivale, bah c'est le bon moment pour faire le point sur la grille de départ type de cette saison 2023. Et elle a été préparée par Stéphane et il y a des surprises.
Oui, je t'accorde à peu près 5 propositions pour me trouver qui est deuxième de cette grille type derrière l'inévitable Max Verstappen.
Alors, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors, on va parler de Max Verstappen, qui en est à sa 8e victoire consécutive hein, pour le double champion du monde, parti 6e sur la grille de ce Grand Prix de Belgique. Il lui aura fallu quelques tours à peine pour revenir à la 2e place, et puis ensuite, il s'est défait de son coéquipier quand il l'a voulu pour foncer vers son 10e succès de la saison. Il a maintenant 125 points d'avance sur Sergio Pérez. 125 points, ça fait 5 Grands Prix d'avance. Autrement dit, on est... C'est pas qu'on n'est pas dans la... Il y a une classe à part pour Max Verstappen, c'est qu'en fait, il y a un écartant. C'est-à-dire que Sergio Pérez, en fait, vient de terminer le Grand Prix d'Espagne. Il est encore en Catalogne, là, en train de faire ses valises pour repartir. Alors que, ça y est, Max Verstappen, lui, vient de remporter le Grand Prix de Belgique. Il est en vacances jusqu'à la fin du mois du mois d'août. Et je le disais, au final, le seul qui lui résiste, bah, c'est son ingénieur, Giampiero Lambiadze. Il y a eu des échanges plutôt nerveux qui ont commencé à la fin de la Q2, hein, où c'est passé tout juste d'ailleurs pour Max Verstappen, qui était dixième. Le Néerlandais qui a fait une petite remarque assez véhémente à son ingénieur. Et puis bah, Lambiadze qui lui répond, bah, écoute, pas de problème, dis-moi ce que tu veux faire là pour la Q3 et puis on va le faire, histoire de dire, écoute, je fais mon métier, fais le tien. Il a aussi demandé à son pilote de mieux utiliser sa tête pendant la course parce qu'il trouvait qu'il avait tapé un peu trop dans ses pneumatiques au début de son relais. Et puis finalement, Max Verstappen a répondu, je trouve, avec intelligence. Mais bah finalement, on dit que c'est l'équipe de Max Verstappen. Celui qui lui répond, c'est pas le chef, c'est pas Christian Horner, c'est Giampiero Lambiadze. Alors les deux se connaissent depuis longtemps, Stéphane.
Oui, alors il est bien ce Max Verstappen parce qu'il avance comme un bulldozer sur tous les records. On penserait qu'on pourrait s'ennuyer encore dans la suite de cette saison. 8 victoires de suite, 12 pour Red Bull. Mais il assure le service après-vente en faisant de la provocation. Vraiment, il y a une part d'immaturité quand même là-dedans, franchement. Les grands champions n'avaient pas de telles relations avec leurs ingénieurs, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'ils se connaissent bien parce qu'ils travaillent ensemble depuis le premier jour où Max Verstappen est arrivé chez Red Bull au Grand Prix d'Espagne en 2016. Lambiadze était l'ingénieur voiture de Daniil Kvyat, tout à fait. Et donc, il s'est retrouvé à s'occuper de Max Verstappen. Et depuis, bah, c'est une affaire qui roule à peu près. Je reviens juste un petit peu sur les états de service de Lambiadze parce que Helmut Marko a dit quand même, il faut regarder un peu le palmarès de ces gens-là, c'est pas n'importe qui l'ambiassé. Il est arrivé chez Jordan en 2005, donc il a 18 ans d'expérience quand même en Formule 1. Il a fait une dizaine d'années dans cette équipe ou ses déclinaisons, c'est-à-dire Midland, Spyker, Force oui. India, où il a eu sous sa responsabilité Sergio Pérez, avant de passer chez Red Bull en 2015, donc ils en sont là. Et Lambiasé a été ingénieur en chef sur la voiture de Max Verstappen. Et en avril 2022, lorsque Guillaume Roclin a quitté son poste de chef ingénieur, eh bien, c'est Lambiasé qui a récupéré ce poste en tenant à garder ses fonctions auprès de Max Verstappen sur sa voiture. Ça veut dire que c'était une caution supplémentaire apportée à Max Verstappen parce que le chef ingénieur, c'est lui qui définit la stratégie sur les réglages des voitures, s'il faut partir dans deux directions différentes, et éventuellement aussi avoir des stratégies partagées. On l'a vu par exemple samedi sous le sprint, mais ça c'était encore un petit peu autre chose, tout le monde a fait ça comme ça. Mais Lambiasé est là pour faire un petit peu tout le temps ce qui arrange Max Verstappen, donc c'est quand même son premier interlocuteur sur les circuits, c'est son premier
contact avec le monde extérieur pendant que tout le pilote est dans sa voiture.
Et là, quand même, c'était de la vanne dure, on va dire.
Oui, clairement. Oui. Et dans les deux sens.
Oui, parce qu'il y a une surenchère à laquelle il faut quand même mettre fin. À un moment donné, il faut employer un ton ferme, mais Max Verstappen, il a un côté quand même un petit peu gamin, quoi. Il veut toujours avoir le dernier mot, c'est un petit peu ça.
Et ben là, j'ai pas trouvé, hein, moi.
Alors, il s'est excusé platement après la qualif vendredi en disant effectivement, je me suis emballé.
Je suis parfois désolé, un petit peu dur à gérer. Et l'autre lui dit pas, ouais, t'as raison, pardon. Non, il lui dit, ouais, mais je m'habitue à toi. Donc en fait, il lui pardonne pas, quoi. Il cède rien, je trouve, en ce moment, Giampiero Lambiasé. Et moi, je trouve ça plutôt bien.
Et dimanche, quand même, il a dit, est-ce qu'on blaguait ou est-ce que c'était sérieux? C'était du 50-50,
c'est ce
qu'il
ça.
A dit. Ouais. Donc, quand même, ils ont l'habitude un petit peu de se frictionner. Alors, quand Max Verstappen a été champion du monde l'an dernier, il est un petit peu revenu sur ses relations avec Lambiasé. Il a dit, nous, on est cash, on se dit les choses. Et c'est vrai qu'il est assez direct, Verstappen. Il aime dire les choses. Et on retrouve un petit peu ce côté exclusif, c'est-à-dire que il a un manager depuis toujours. Il ne veut travailler qu'avec Red Bull. Il s'est engagé jusqu'en 2028. Et il a même dit, je travaillerai aussi toute ma carrière avec Giampiero Lambiasé. Ouais, je lui ai dit...
S'il arrête, j'arrête aussi.
Voilà, dès qu'il arrête, j'arrête. Donc ça, c'est clair là-dessus. C'est pas à remettre en question, mais... C'est quand même un petit tremblement de terre parce que ce n'est pas des relations normales que doivent entretenir un pilote et son ingénieur.
Bah, j'ai envie de dire deux collaborateurs, quel qu'il soit. Après, moi, je trouve qu'il y a deux façons de voir les choses. D'un côté, on va dire le verre à moitié vide. C'est-à-dire que c'est des relations qui sont un petit peu tendues, qui sont rudes. Et dans le temps, ça paraît un petit peu compliqué. Et... Je retrouve là finalement la situation qui était décrite. Alors on va parler boulot, on va parler football pendant 5 secondes. La situation décrite par Zlatan Ibrahimovic en parlant de Kylian Mbappé par rapport au PSG. Où il disait, il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand que ton club. Je trouve que cette phrase, tu changes le mot club par équipe. Et c'est exactement valable pour la relation entre Max Verstappen et Red Bull. C'est-à-dire qu'on voit bien que Max Verstappen, la dimension du Néerlandais, a dépassé celle de Red Bull. Demain, si Max Verstappen veut aller chez Mercedes, il prend son téléphone, il appelle et c'est fait. Il veut aller chez Ferrari, c'est pareil. Il peut aller absolument où il veut. Et donc, c'est un petit peu inquiétant, effectivement, qu'il faille le remettre à sa place. En même temps, bah, je trouve que ça a un aspect très sain parce que les deux se disent la vérité, en fait. Hein. Ils se disent exactement ce qu'ils ont sur le cœur au moment où ils le pensent. Et je pense que c'est très salvateur aussi pour Red Bull, finalement, qu'il y a quelqu'un qui ramène un petit peu Max Verstappen les pieds sur terre en lui disant « Hé, t'es le meilleur pilote du monde, ok, tu pilotes la meilleure voiture du monde, voilà, mais t'es le pilote ». On a besoin d'un ingénieur pour savoir combien de kilos on te met dans la voiture entre la Q2 et la Q3. Tu n'es pas capable de le faire. C'est l'ingénieur qui va savoir te dire, tiens, on va te mettre 40 kilos, ça va te permettre de faire deux tours vite, un tour de recharge entre les deux. Tout ça, un pilote, je veux bien qu'il soit de plus en plus intelligent, mais c'est quand même le travail de l'ingénieur. Et cette relation-là, où il dit, si l'Ambiase arrête, moi j'arrête, elle m'a fait penser... ça remonte un petit peu, mais pendant un moment, je couvrais le championnat du monde des rallyes. Et en 2003, Daniel Elena fait une erreur sur le rallye de Turquie. Il se trompe, en fait, sur une liaison routière.
Tombe en panne d'essence.
Et Sébastien Loeb tombe en panne d'essence, perd le rallye. Et Guy Fréclin veut renvoyer Daniel Elena. Le Grizzly, on l'appelait Guy Fréclin, il avait envie d'écarter Daniel Elena parce que ça ne correspondait pas au code de Citroën. Et là, il a été très clair. S'il n'y a pas Daniel à côté de moi dans la voiture, je ne roule pas. Point. Voilà. Et on retrouve en fait cette relation. Ils ont gagné quelques titres ensuite, avant de finir par se séparer. Voilà. Mais je trouve ça finalement très sain qu'on se dise la vérité, quoi.
Oui, mais alors Max Verstappen, il n'aime pas qu'on lui fasse la consigne quand même, mais la conclusion de tout ça, c'est chacun doit rester à sa place, chacun maîtrise sa partie, point. Max Verstappen dit, ils veulent garder la voiture sous contrôle, en parlant de la gestion des pneumatiques, mais c'est moi qui suis au volant, et c'est moi qui vois comment est-ce que les pneus se comportent. C'est vrai qu'il a tout dit là-dedans, mais... Quand je te parlais de surenchère en termes de vocabulaire, on a aussi une surenchère en termes de liberté qu'on lui a proposée, pas plus tard qu'au Grand Prix d'Autriche, à Spielberg. Il a fait des pieds et des mains dans les derniers tours pour rentrer au stand, pour passer des pneus neufs et battre le meilleur tour en course. Les ingénieurs n'étaient pas d'accord, ils ont fini par céder. Helmut Marko a dit, bon écoutez, c'était moins risqué comme ça, il a eu ce qu'il voulait, on était au Red Bull Ring, c'est-à-dire que carte blanche, voilà. Et on lui donne carte blanche ici.
Jusqu'au jour où il va les forcer, dimanche, il va rentrer dans les stands et il n'y aura pas de pneus qui l'attendront.
On n'a pas tellement relativisé ses propos, on dit, bon c'est un vieux couple, ils se disputent de temps en temps, mais ça va continuer comme ça. Mais moi, finalement, je me demande si à travers ça, il ne s'ennuie pas un petit peu. Là, il y a Helmut Marko qui a dit, dans ces petites frictions, là, dans cette friture sur la ligne, il y avait deux choses. Il était question de meilleurs tours en course et de ce que faisaient les autres. Ça veut dire que quand Max Verstappen attaquait, il avait en tête ce meilleur tour en course parce que... il sait qu'il va gagner. Alors, quand il ne part pas en pole position, exceptionnellement...
Ça lui prend quelques tours de plus.
De plus, c'est tout. Et puis, son petit biscuit, c'est le meilleur tour en course.
Il ne veut rien laisser, en fait. Il ne veut rien laisser.
Donc, je pense que c'est un petit peu comme ça. Et je retrouve un petit peu l'ennui qu'avait Michael Schumacher en 2004 chez Ferrari. Il gagnait, il surgagnait. Et à un moment donné, il avait fallu donner un petit bonbon à Barrichello, lui offrir une victoire. Et il s'était tellement ennuyé, Michael Schumacher, qu'il avait, on le soupçonne, on ne saura jamais la vérité, mais il était parti bizarrement en tête à queue dès le départ du Grand Prix, le premier tour du Grand Prix d'Italie, à Monza.
Histoire de se faire un challenge.
Tout à fait. Et puis il est remonté jusqu'à la deuxième place, au niveau de Barrichello, en disant, tu vois, je peux même te doubler, je m'amuse tellement. Et là, je pense que ça l'avait extrêmement diverti, et lui devait une victoire, il l'avait fait comme ça. Et je pense que... Verstappen, il est un petit peu là-dedans. Maintenant, il cherche ce qu'il peut gratter en plus, pour, même s'il n'est pas fou de record, mais il essaie de tout attraper.
Ouais, bon. C'est ça, de pimenter au moins sa course. Il y a quand même un élément, pour conclure le sujet, il y a quand même un élément sur lequel je voudrais revenir. Là, on parle effectivement de ce qui se passe, des conversations radio entre l'ingénieur et le pilote. Et on le dit, l'ingénieur de course, c'est le seul relais que le pilote a, à part quelques événements très très rares, entre lui et le reste du monde pendant les courses ou pendant qu'il pilote en essai ou en qualification. Et il n'y a qu'en F1 où on est aussi intrusif. Jamais on entend ce qui se passe dans le bureau d'un président de club entre un joueur et l'agent du joueur et le président du club. On n'entend pas ce qui se passe à de très très rares exceptions près dans les vestiaires avant un match de boxe on n'entend pas ce que dit là encore ou alors il faut vraiment que ça négocie très très fort là on est vraiment dans l'intimité de l'échange Et c'est normal que de temps en temps, il y ait des noms d'oiseaux. On a entendu parfois quelques insultes aussi sortir. Bah oui, mais enfin, vous et moi, on insulte bien les gens quand on roule sur la route, ceux qui nous coupent un peu la route ou qui nous brûlent une priorité. Il faut comprendre qu'avec l'adrénaline, il y a aussi de l'influx nerveux. Donc, je veux dire, il faut relativiser tout ça.
Mais Helmut Marko avait relativisé après le couac de la qualif à Singapour l'an dernier. L'ambiacé n'avait pas mis assez d'essence dans la voiture de Verstappen. Et il l'avait stoppé au moment même où il attaquait son tour rapide.
Ouais,
alors
on s'en
souvient de ça. Donc là, il avait plaqué tout le monde. Il était parti grogner dans son coin. Pas de débrief, rien. Et Marco avait dit, bon, il faut quand même qu'il se rende compte que, bon, c'est sûr que c'est une erreur qu'il avait qualifiée de stupide de la part de Lambiassé, mais c'est quelqu'un qui lui a permis de gagner jusque-là 34 Grands Prix. Donc il faut qu'il relativise un petit peu. Ce qui fait peur quand même, c'est qu'il ne faut pas que ça s'installe dans la durée. Parce qu'il y a un moment où tu ne sers pas non plus de punching ball, où tu n'as pas envie de cette relation de travail, si doué soit-il le pilote dont tu as la charge. Ils sont quand même dans une zone un petit peu dangereuse. On sait que tout le projet Red Bull repose sur Verstappen. C'est pour ça qu'il a trop de certitudes à ce niveau-là. Je dirais quand même qu'il ferait le prendre entre quatre yeux en disant tu te calmes un petit peu.
Mais ça, c'est ce qui
va faire descendre la pression.
Ça a forcément été fait après, en dehors des micros. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et Red Bull en est conscient, et Max Verstappen aussi, et je pense que Giampiero Lambiasé aussi, c'est que si demain t'inverses les deux ingénieurs chez Red Bull, tu mets celui de Sergio Perez à la place de Giampiero Lambiasé, je pense que Max Verstappen continue d'avoir l'ascendant sur Sergio Perez. Tout le monde le sait, ça. Donc, on va pas aller jusque-là. Mais je trouve que c'est bien. Et tu parles de punching ball, je suis pas tout à fait d'accord parce que autant Peter Bonington finalement ne réagissait jamais quand Lewis Hamilton disait oh là là les gars cette stratégie vous vous êtes trompés, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il était très très policé, façon britannique. Hein,
très flegmatique.
Peter Bonington, voilà, très flegmatique. Autant là, c'est pas le punching ball, ou alors c'est le punching ball, mais qui te revient de temps en temps dans la tête. Et moi, je trouve que là, les échanges qu'on a entendus, parce qu'attention, on n'entend pas tous les échanges pendant les Grands Prix, il y a des personnes qui écoutent et qui proposent ensuite aux réalisateurs télé un extrait de ce qui se dit. Faut bien comprendre que vous n'entendez que 1% de ce qui s'échange pendant les Grands Prix. Donc, il y a aussi une notion d'éditorial.
Les pilotes parlent à tous les tours, quasiment.
Quasiment, et les ingénieurs...
À part ceux qui n'aiment pas ça, mais autrement, ouais. La plupart sont très bavards.
Max Verstappen, voilà. Il serait capable de vous commenter le Grand Prix. Hein. Il regarde même sur les écrans géants ce qui se passe pour les autres. Donc voilà, simplement, ouais. Moi, je dis que là, Lambiasé, il m'a quand même fait plaisir parce qu'il y a renvoyé deux petits cachous à l'ami Max.
Ce qui m'a juste surpris, c'est que Red Bull, qui est toujours à la recherche de hype,
au contraire.
Il y a Christian Horner qui a déclaré, bon, c'était quand même un petit peu embêtant parce qu'il y a 200 millions de personnes qui ont entendu cette conversation en direct.
Et en fait, je
c'était pas très bon pour l'image, mais
je suis
quand même.
Je suis sûr qu'il est très content. Exactement. Le deuxième sujet dont on va parler, là, pour le coup, il y a aussi 200 millions de spectateurs qui suivent les épisodes. Bon, là, c'est presque Santa Barbara chez nos amis
Alpine.
Alpine passait du cap de la restructuration à finalement celui de la reconstruction, carrément. Hein, parce que, attention, race gratis, c'est parti. Après, Laurent Rossi débarqué il y a moins de 15 jours, cette fois, l'équipe Alpine s'est séparée. De son patron d'Alpine F1, Otmar Szafnauer, de son directeur sportif Alan Perman, de son responsable technique Pat Fry, qui va rejoindre les rangs de chez Williams en tant que directeur technique à partir du 1er novembre. Et c'est donc Bruno Famin qui sera carrément sur le muret aux Pays-Bas pour la reprise du championnat.
C'est très bon pour le budget cap, ça.
Ah bah là, oui, magnifique. Enfin, ça dépend des indemnités, parce que est-ce que les indemnités rentrent dans le budget
cap
ou pas ?
C'est vrai, j'y ai pas pensé.
Je pense pas. Et Bruno Famin a expliqué aux gens de la Formule 1 que c'était le début de l'étape 2 du plan d'Alpine.
Reste à savoir combien il y en a exactement.
Oui, c'est surtout que là, celui-là, ça va être du copieux, cette deuxième étape. Le premier point qu'on voulait évoquer, l'ampleur des départs, qui est vraiment, vraiment ahurissante. On a parlé de Szafnauer, on a parlé d'Alan Perman, de Pat Fry, à ajouter au départ de Laurent Rossi. Mais si on remonte un petit peu plus dans le temps, on va rajouter Marcin Butkowski, Rémi Taffin, Alain Prost aussi. On a perdu la trace de Davide Brivio qui doit être dans un bureau qu'on n'a pas ouvert depuis 14-15 mois. Bon, il est sur les projets spéciaux, l'italien. Bon, on n'en parle même plus, le pauvre. Enfin, là, il y a quand même une liste déjà. Enfin, il y a de quoi faire une équipe avec tous les gens qu'ils ont virés.
Oui, et le point peut-être essentiel de ces départs, j'ajouterais aussi Daniel Ricciardo. Alors, subi complètement hein, par Renault, évidemment. Mais
est-ce qu'on peut mettre Fernando Alonso aussi,
ouais, il avait signifié que Fernando Alonso, qui ne croyait pas au projet.
Oui.
C'était ça. Alors, Alonso, c'était une question de contrat, de durée de contrat. Il voulait 2 ans. Alpine, c'était 1+1 à voir en fonction des résultats. Et Ricciardo avait compris, en fait. Lui, il sait comment fonctionne une écurie de points. Il sait ce qu'il faut pour gagner. Et au bout d'un an, il était parti en courant. En tous les cas, il était parti avant d'attaquer sa dernière.
Il avait signé ailleurs, oui.
Tout à fait. Et là, ça ressemblait encore à, bon, en fait, on se débarrasse de l'ancienne garde, de tout ce qu'avait mis en place Laurent Rossi. Et quand tu parles de Butkowski, de Rémi Taffin, etc., c'était pour laisser de la place à une seule personne, Laurent Rossi, qui voulait tous les pouvoirs, toute la lumière, comme l'avait dit Alain Prost, qui n'a pas été tendre. Hein,
oui, ça, pour le coup, il s'est lâché, là, le quadruple champion du monde.
Ce qui m'inquiète quand même, c'est que moi, j'aurais gardé... Alors, déjà, le timing est désastreux. Alors, en plus, ça arrive pile un an après le Piastri Alonso Gate.
Ouais.
Tout à fait. Cette histoire où Zaffnauer n'était pas au courant que Alonso partait, alors qu'il l'avait annoncé au top management, que ce qui se tramait autour de Piastri, qu'il avait dit non, on a un contrat en bonne et due forme, et c'était faux aussi. Donc là, il y avait une sorte de fuite en avant pour essayer de masquer cette réalité, mais il était encore en place depuis 6 mois. Donc. Il faut relativiser par rapport à ça. Mais Zaffnauer, c'est 26 ans d'expérience en Formule 1. C'est quelqu'un qui sait faire tourner impeccablement une écurie, qui connaît tous les rouages des relations avec les autres teams, avec la FIA, avec le pouvoir sportif, avec le pouvoir, avec le, voilà, le,
26
les sponsors.
Ans, 26 ans au cours desquels il s'est créé quelques inimitiés aussi.
Oui.
Il faut bien le dire.
Bien sûr, tout à fait. Et je vois aussi le départ de Perman. Pour moi aussi, ça, c'est un peu catastrophique parce que c'est 34 ans aussi
de service,
d'exercice,
ouais.
Voilà,
et de service
pour
la même équipe. Hein,
il a commencé comme ingénieur, tout à fait. À lui, là, il a fait Benetton, Renault, Lotus, Renault, Alpine. Voilà. Et lui, par contre, il était assez autoritaire. Mais alors, il y a un nouveau directeur sportif qui va arriver à partir de Zandvoort, on va en reparler. Mais un directeur sportif de ce calibre-là, c'est difficile à remplacer. Parce que c'est la personne qui va te défendre quand tu as un contentieux avec la FIA. On sort d'une qualif, un pilote est convoqué à la direction de course, il faut l'accompagner pour plaider son cas. Alors, il faut savoir qui est en face de toi, c'est-à-dire le pilote qui est commissaire. Faut connaître les commissaires eux-mêmes, savoir comment présenter les choses. Et puis, des fois, tu prends 5 places de pénalité. Des fois, tu prends rien parce que ton directeur sportif a fait le job. Et c'est
plus ou moins bon avocat.
Exactement. Et ça, ça ne se remplace pas. Il y a plein de choses comme ça. La connaissance des règlements, tout ce que tu dois faire sur un week-end, c'est le directeur sportif qui connaît tout ça par cœur. Et puis, il y a Pat Fry qui est parti. Alors, lui, il a été annoncé ailleurs tout de suite et quelques heures plus tard, officialisé par Williams.
On peut même se demander s'il n'était pas déjà dans les
tuyaux. Lui, il avait compris ce qui se tramait.
Exactement.
Par rapport aussi aux résultats qu'il n'avait pas apportés. Donc, ça fait quand même qu'on se débarrasse des 3 personnes quasiment les plus importantes de l'équipe.
Clairement.
Et moi, ce que j'ai noté quand même dans tout ça, c'est que Bruno Famin sera directeur d'équipe à partir de Zandvoort, mais par intérim. Et il a dit, il y a des choses encore à venir et vous comprendrez bientôt.
Il va y avoir une réorganisation. En fait, de ce que je lis, moi, en creux, il va y avoir une réorganisation totale de la façon dont l'équipe va fonctionner. On va y revenir parce que cette équipe, elle a un fonctionnement un petit peu particulier de par ses installations. Tu as mentionné le timing. Le timing, il est absolument terrible. Juste avant la trêve estivale, Zaffnauer, Fry, Perman qui s'en vont. Et en fait, ils ont compris qu'ils allaient sauter. On en a parlé la semaine dernière. Zaffnauer, on parle de plus en plus de Mattia Binotto. Quoi qu'il arrive, il sait que sa place, c'est un siège éjectable. Donc, finalement, ils prennent les devants et c'est eux qui imposent le moment où ils partent. Mais ça veut dire que tous les gens qui ont été nommés à des places importantes par ces trois-là savent qu'ils vont partir aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On cherche du travail ailleurs, tout de suite. Pendant la trêve. Ça veut dire que maintenant, la voiture, sur la fin de la saison 2023, je vois pas comment la voiture peut continuer à évoluer de manière efficace avec des gens qui vont passer du temps à chercher du travail ailleurs.
À ce qu'ils vont mettre sur la voiture à la reprise,
ça c'est déjà
dans les tuyaux depuis 3-4 mois.
Mais ça veut dire que ça sera, clairement, pour moi, c'est le dernier train de...
Un kit Monza, par exemple, les équipes le travaillent au mois de mai.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà en boîte, c'est fait, il y a juste à fabriquer les pièces après.
Mais
ça,
je vois pas comment il pourrait y avoir autre chose. Ça, c'est pour la fin de la saison 2023. Si on veut recruter pour 2024, on comprend bien qu'il y a la clause du garden leave, la clause du jardinier.
Tu parlais effectivement de Mattia Binotto. Ça m'étonnerait de toute façon qu'il soit...
aux affaires, là, tout de suite.
Avant le début 2024. Ouais. Quelqu'un de ce niveau-là, c'est un an minimum, voire un an et demi de garden leave, c'est-à-dire qu'il se met en retrait. Il connaît tous les secrets de la Scuderia technique, sportive.
Organisationnelle.
Exactement, tout ce qui se trame dans cette équipe. Mais Zaffnauer, quand même aussi, il était en charge du recrutement. Et c'est là où j'étais un petit peu surpris de du propos de Bruno Famin, qui a dit sur Canal+, en fait, j'ai discuté avec le directeur d'équipe, Otmar Zaffnauer, et avec Alain Parman, le directeur sportif, pour leur demander un petit peu, globalement, ce qu'ils adhéraient au projet, si déjà ils faisaient le bon diagnostic ou ils partageaient déjà ses impressions à lui. Et puis, sur la question du timing, et ce qui m'a surpris, c'est qu'on demande son avis à Alain Parman, qui est un directeur sportif et qui se prend depuis des années pour un directeur d'équipe adjoint. Normalement, tu le laisses à sa place, il s'occupe de l'administratif, point. Mais là, ils avaient pris le contrôle de l'écurie complètement. Et Zaffnauer avait engagé quand même une politique de recrutement pour muscler le bureau d'études. Et il a dit, j'ai signé de bonnes recrues d'autres teams, mais elles sont bloquées par contrat. Et elles ne viendront pas avant 2024, voire 2025.
Mais alors, j'allais y venir, Stéphane, parce que là, on a parlé de fin 2023. Mais donc, avec les fameuses clauses de garden leave, si tu recrutes, plus tu vas monter dans la hiérarchie, plus les garden leave sont longs, plus les périodes de repos forcé sont longues.
Ouais.
Donc, là, même la voiture 2024, là, honnêtement, je ne vois pas comment elle peut avancer en termes de développement. Et après, ça veut dire que, alors, OK, 2024, on oublie aussi. Ça veut dire que tu vas refaire une voiture pour la saison 2025, alors qu'il y a une nouvelle configuration technique qui arrive en 2026.
Alors, moi, je prendrai l'exemple de McLaren. La voiture était mal née et ils ont été capables de la rectifier en interne, hein, quand même, franchement. Mmh. Donc, voilà. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que c'est Matt Harman, maintenant, qui reste tout seul aux commandes et que c'est sa première voiture. On avait parlé la semaine dernière de Pat Fry, qui n'avait pas une grande expérience de designer. Sa première voiture, c'était l'Alpine 2021. Ils ont gagné sur un coup de chance en Hongrie. Le reste, ça a quand même fait du yo-yo. Et autour de la 7e, 8e place. Donc ça, c'est aussi un petit peu inquiétant. Il faudrait un recrutement
de
qualité.
Ça n'a pas progressé.
Exactement. Mais maintenant, il faut se concentrer sur cette voiture-là parce qu'il ne faut pas lâcher prise. Hein. On a vu d'ailleurs ce qu'a fait Pierre Gasly sur le sprint. Il peut quand même y avoir des coups d'éclat. Mais c'est vrai que pour passer un cap, il faut du sang frais.
Exactement. Clairement. Je vais te dire, moi, dans les propos de Bruno Famin, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est le fait justement, il a dit à un moment, hein, on n'était plus sur la même ligne avec Otmar Zaffnauer. On était plus sur la même longueur d'onde, sur le timing.
Oui.
Et je pense que chez Alpine, on est sur le temps long. On est passé sur le temps long. On a compris qu'on a loupé l'épisode 2022 et on est passé sur le temps long.
Oui, mais Zaffnauer comprend quand même qu'il faut du temps. Il l'a dit, d'abord, il faut recruter et après, il faut que les gens apprennent à travailler ensemble. Ça, c'est de la gestion d'ego quand même. Dans une écurie, il y en a énormément. C'est compliqué. Tu peux avoir les bonnes personnes, mais si elles ne sont pas compatibles, ce n'est pas la peine. Et ça, il faut du temps pour s'en apercevoir. Il sait comment tout ça fonctionne. Moi, Zaffnauer, je l'aurais gardé, mais redimensionné dans un rôle d'administratif où il fait tourner l'équipe. Et puis, Bruno Famin prend en charge les recrutements, etc. Mais il n'était visiblement pas prêt à lâcher cette parcelle de pouvoir.
Clairement.
Évidemment, Alain Parmen non plus. On ne va pas lui faire. Donc,
travailler
on était
ensemble.
Dans une impasse.
Travailler ensemble, c'est la problématique de cette équipe, j'ai envie de dire, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a un pied du côté d'Enstone et l'autre du côté de Viry-Châtillon.
Mais
ça a toujours été une forme de défiance entre la structure châssis, donc, qui est en Angleterre à Enstone, et puis l'équipe moteur, qui est en région parisienne à Viry-Châtillon et qui a fabriqué les fameux V10 qui marchaient très très fort, et qui a aussi fabriqué le moteur là qui marche un petit peu moins fort. Et là, pour moi, il y a aussi une erreur de management. C'est-à-dire que quand Alpine est arrivé, ils ont dit on veut faire la Formule 1 française. Mais les mecs qui font la voiture à Enstone, ils rigolent quand tu leur dis c'est une Formule 1 française. C'est eux qui la font. La voiture, elle est fabriquée à Enstone, en Angleterre. On met le moteur dedans, on met de la peinture bleue dessus, sauf quand il y a un sponsor qui arrive et qui veut mettre du rose. Bon, bah allez, on met du rose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, y a un côté un petit peu... Il va falloir remettre les choses un petit peu à plat et peut-être se poser la question d'établir une structure en France, carrément. Je me demande si, pour moi, aujourd'hui, Alpine pose son regard sur 2026. Et à cet horizon-là, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir une structure en France pour faire aussi le châssis ? Ça n'a jamais marché. Hein. Enfin, si, ça a pu marcher parfois. Ils ont été champions du monde, effectivement. Mais il y avait un Flavio Briatore à l'époque.
Tout à fait, il avait mis tout le monde d'accord.
Il y avait un lion qui était quand même une main de fer dans un gant de velours.
Hein. Exactement, et quand Éric Boullier l'a remplacé, il a dit, quand je suis arrivé, en fait, les Anglais m'ont fait la guerre.
Ah oui.
Bob Bell en tête. Et là, ils étaient, c'était le corps tranché, et puis c'est le Français qui arrive. Et on est tout le temps dans ce problème-là parce que Enstone, c'est la Motorsport Valley, c'est les Anglais gèrent ce sport politiquement. Ils abritent, je crois que c'est 8 des 10 écuries du plateau. Donc c'est Sauber, c'est Ferrari et puis c'est AlphaTauri, donc 7 sur 10. Et on ne va pas leur expliquer comment ça marche. Voilà. Alors. Le problème.
On irait mettre un Anglais à Viry-Châtillon, je pense que ça serait pas, ça se passerait bien, alors, pas très, a, très bien non plus.
Tout à fait. Mais on a toujours été dans un temps long. J'ouvre juste cette petite parenthèse par rapport à Alpine. Renault est revenu en 2016. Ils ont repris la structure de Lotus. Ils ont dit on va profiter vraiment du nouveau règlement en 2017 pour faire un bond en avant. Manque de bol, on n'a rien vu. 2022, ça devait être la révolution, ça y est, ça devait être le grand départ, rien du tout. Et maintenant, on se reporte sur 2026. Et c'est vrai que là, par contre, on voit loin et ça serait peut-être l'occasion de reconsidérer complètement ça parce que les Anglais, ils gèrent pour eux une équipe. Ils ne gèrent pas une marque. C'est vrai qu'ils sont dans un entre-soi à Enstone. Et la prochaine
c'est
gamme,
pas du tout
la prochaine
chose.
Gamme Alpine, ça leur parle pas, les Anglais. Je parle.
Ah bah c'est pas que ça leur parle pas. Et franchement, ils s'en tapent totalement.
J'espère pas, mais ça les concerne pas au quotidien. Je dirais, ils n'ont pas ce A fléché gravé sur
Exactement.
Le cœur. Et c'est ça peut-être qui pose un petit peu problème. Alors, il y a qu'une équipe qui est magique en Formule 1, c'est Ferrari. Qui fabrique tout sous un même toit, châssis, moteur, et qui produit ces GT, ces supercars qu'on connaît.
Du commerce, ouais.
Et je trouve que Alpine, en fait, arrive là-dedans avec une identité résolument française, avec l'objectif de concurrencer Ferrari, Aston Martin, McLaren, qui ont tout aussi sous un même toit. Et là, on continue d'avoir des bases éclatées. Et c'est vrai que ça ferait rêver. Comme lors de la première période Renault, ils étaient installés à Fresnes, les ateliers châssis, en région parisienne. On pourrait rêver d'une grande structure. Mais alors là, il faut quand même plusieurs années pour la construire. Mais quand tu achètes une Ferrari, tu vas à Maranello, t'es reçu, tu peux faire une visite des locaux, voir un petit peu, ressentir l'atmosphère et tu sens que tu es dans un lieu particulier. Et c'est vrai que sous un même toit, l'entité châssis, moteur, ça aurait du sens. Et même, j'ajoute, endurance, le WEC, ouais. Le Dakar, pourquoi pas, avec une ligne de production. Enfin, tu ferais quelque chose qui serait un tout qui aurait de l'allure.
Mais exactement.
Ça, ça se compte en millions d'euros, centaines de millions d'euros et en 7 ou 8 ans.
C'est
je sais
ce que j'allais
combien.
Dire, en année.
Tout à fait.
Honnêtement, pour en avoir parlé avec quelques petites personnes, c'est assez peu probable.
Non, mais on n'en est pas là. Il faut des résultats parce que là maintenant, c'est urgent.
Ouais.
On ne va pas tout reconstruire, tout refaire pour repartir sur une nouvelle idée. C'est très bien comme ça. Maintenant, il faut moderniser, mais C'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on a dit depuis quelques semaines. On a l'impression que Alpine, c'est tout le temps l'équipe en construction, mais les autres aussi. Hein. Il faut refaire les organigrammes, il faut moderniser, il faut une nouvelle souffleur, etc. Bon, voilà.
Là, le chantier paraît quand même énorme. Et on va conclure là-dessus. C'est peut-être d'un Frexit dont a besoin Alpine pour se relancer dans ce monde de la Formule 1.
Ce qui serait comme aussi compliqué parce que tu as tous les fournisseurs qui sont autour des équipes et ça peut être compliqué de trouver des choses très simples comme du carbone, etc., des éléments ou des spécialistes, des sous-traitants. Il y aura tout ça aussi à refaire. C'est pas gagné.
Mais c'est très compliqué, c'est clair. Mais c'est un très très bon argument que tu viens d'avancer. Bref, le chantier est ouvert. C'est Bruno Famin qui va s'y coller. Bon courage. Je pense qu'il a quelques jolis moments de prise de tête devant lui. On va terminer ce fou du volant juste avant de partir en vacances. En faisant le point, on a passé mathématiquement la moitié du championnat après le Grand Prix en Hongrie, mais on va profiter de ce moment de la trêve là pour faire le point parce que c'est toujours très très intéressant de voir la grille type. Comment on s'en est sorti en qualification, à comparer ensuite au classement, évidemment, du championnat. Ça nous occasionne souvent des surprises. Et Stéphane, justement, on va être un peu dans la surprise parce que je t'ai laissé préparer tout seul. Bon, j'ai cru comprendre que celui qui se qualifiait le mieux s'appelle Max Verstappen. C'est un Néerlandais qui roule très, très vite.
Oui. Tu as parlé de grille type, en fait, on a regardé les 12 grilles de départ depuis le début de la saison et on a fait une compilation pour vous offrir une photographie de ce qui se passe. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous nous écoutez en podcast aussi, on va détailler ça très tranquillement et vous allez tout comprendre. J'ai tout simplement additionné les positions de chaque pilote sur la grille de départ, donc sur les 12 Grands Prix, en retirant... les deux moins bons résultats parce que de temps en temps on se loupe, parce que de temps en temps il y a de la malchance, etc. Et que ça peut peser énormément dans une moyenne, dans un résultat final. Et j'ai compilé tout ça et sans surprise, comme tu le dis, c'est Max Verstappen donc dans le classement qui arrive premier et deuxième. Tiens-toi bien, moi aussi j'étais en train de me dire qui est-ce qui arrive deuxième, Leclerc.
Alors moi je pensais franchement à Charles Leclerc.
Ah ouais, tout à fait, moi aussi, eh bien c'est Carlos Sainz. C'est assez incroyable. Je détaille la suite rapidement et on va revenir tranquillement. Troisième, Lewis Hamilton. Devant, Fernando Alonso.
Okay.
Et puis, en cinquième position, on a Leclerc devant Russell. Et Norris et Perez qui referment ce top 8.
Ouais, Leclerc, un petit plus loin que ce que je pensais, alors.
Oui, okay. Tout à fait.
Parce que pour moi, j'allais dire la Ferrari, c'est une voiture du samedi. C'est une voiture de qualif.
Ouais, ouais. Sainz le prouve.
Oui.
Il est deuxième. Sans la moindre pole position, mais il est d'une régularité hallucinante. Il a 8 top 4 en tout dans ses résultats. Son moins bon résultat que j'ai retenu, c'est une 5e place. Donc tu vois qu'il est extrêmement régulier. Et il est tout le temps là. C'est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Il est là tout le temps. Et ce qui fait que on l'a constaté cette année en qualif, en course, de temps en temps, la deuxième force du plateau, c'est Aston Martin. Ou alors, c'est Mercedes. Ou alors, c'est McLaren. Et finalement, lui, il est tout le temps là de façon régulière. Il n'est pas le plus rapide du monde, mais il t'assure au moins un résultat minimum qui correspondrait au pilote numéro 2 parfait. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il est deuxième devant Lewis Hamilton. Alors, dans ce classement, il y a le total des points. Max Verstappen a 17 points, mais derrière, il y a un groupe assez compact. Sainz, Hamilton, Alonso et Leclerc à 38, 43, 46 et 47 points. Ils sont groupés en 9 points, donc c'est de là...
Ça se joue vraiment pas à grand-chose.
Ces quatre-là se bagarrent systématiquement. Sainz, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a été battu 8 fois sur 12 en qualif, mais sa régularité paye par rapport à Leclerc, qui est assez... inconstant, on va dire. Reviendrai juste un tout petit peu. Pour passer juste sur ce qui se passe chez Mercedes, Hamilton et Russell. Hamilton est devant Russell. Hamilton a repris la main ces derniers temps. Il a dominé 6 des 7 dernières qualifs. Donc c'est pour ça qu'il est bien positionné. Et Leclerc en 5e position parce qu'il a quand même été éliminé 3 fois en Q1, donc ça, c'est, ça fait mal, je dirais, deux fois en Q2. Ouais. Donc ça pèse dans le résultat final, quoi qu'il arrive, même s'il a deux pole positions. Et ce qui veut dire que sa position aussi au championnat relève de ça. C'est-à-dire qu'il part mal et il ne se sort pas de ces paquets où les voitures sont très très serrées en performance. Donc il faudrait peut-être mettre fin à cette irrégularité. Et puis quand il est en pole position, ça ne marche même pas bien. Ouais. Parce que sur les 9 dernières pole positions, il l'a converti en 0 victoire.
Ouais. Ça, c'est quand même impressionnant. Hein.
Enfin, ouais, tout à fait. Donc il y a un manque un petit peu d'opportunisme. Et puis, alors, je passe Norris. Le dernier, c'est Pérez. 7 rangs derrière son coéquipier, Max Verstappen. Ouais. C'est le plus gros écart entre deux pilotes sur cette grille type. Ça appelle beaucoup de choses. On parle de ces deux pole positions. Deux coups de chance, en fait. À Jeddah, on l'a déjà évoqué, panne d'essence menaçante pour Max Verstappen en Q3. Donc, c'est Checo qui récupère la pole position. Et puis à Miami, c'est Leclerc qui se crache et qui empêche Max Verstappen de disputer la pole position. Et c'est lui qui est en pole position. Le reste, il se fait rouler dessus. Voilà. c'est là où il y a quand même un peu, on sent le malaise.
Tu pars pas au Mexique en vacances, rassure-moi.
Non, non, mais alors, faut pas non plus que Max Verstappen y aille parce que Jorge Ramirez, le directeur sportif historique de McLaren, disait il n'y a pas très longtemps, Max Verstappen est l'ennemi public numéro un au Mexique.
Oui, ça c'est très drôle parce qu'il y a des endroits qui craignent franchement du côté du Mexique. Bon alors, ça c'était pour le groupe de tête, on va dire. Il y a aussi un midfield sur ton classement de la grille
voilà,
de
sur
départ.
Sur ce deuxième, entre la 9e et la 14e place, à peu près il y a un paquet quand même qui se bat, là c'est le cœur du peloton. C'est là où les places sont, pour les derniers points, la 10e, la 9e place, sont chèrement disputées. Et c'est Ocon qui mène ce petit train avec 85 points devant Piastri. Donc théoriquement, ce sont les deux derniers invités de la Q3. Et on voit que Ocon, il est juste ric-rac en Q3 habituellement. Et puis derrière, il y a Stroll, Hülkenberg. C'est quand même assez incroyable. Devant, Gasly, alors qu'Albon referme la marche à la 14e position. Et là, c'est pareil, Ocon, c'est un monstre de régularité. C'est un petit peu comme Sainz. Franchement, si vous regardez ses positions sur la grille, c'est tout le temps quasiment entre 7e et 12e. Il oscille dans ces eaux-là. Et ses deux autres performances que j'ai retenues, c'est une 4e place. Donc, c'est encore un petit peu mieux. Et puis, quand il touche le fond, il est 15e. Donc, aucune élimination en Q3 régulière.
Que tu as retenu, parce que voilà. Malheureusement, il y a eu un mauvais exemple là, très récent.
Tout à fait,
mais il était 15e. C'est un peu l'exception qui confirme la règle.
Exactement. Et puis, Gasly, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il est un petit peu comme Charles Leclerc. Il paye ses 3 éliminations en Q1. Et c'est là où il y a du travail à faire, parce que je l'attendais un petit peu mieux. Et je dirais, c'est un petit peu là où il est décevant. C'est un petit peu comme chez AlphaTauri, quand il tournait autour de la qualification, il avait du mal à passer le cut, c'était un petit peu la voiture, mais il faut être un petit peu agressif, je ne sais pas ce qui se passe, il met souvent en cause les pneumatiques, il faut un petit peu de l'opportunisme aussi, il est parfois gêné, ou alors il fait des erreurs, c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler manifestement.
Et on va terminer avec la fin du peloton, c'est ça, où on va retrouver, parce que là, on n'a pas encore parlé de Lando Norris. Il est où, notre ami Lando Norris, quand tout ça?
Je t'ajoute une petite mention sur Stroll, évidemment, plus 7 places par rapport à Alonso, je n'ai pas pu m'empêcher.
Ah, voilà. Donc, il n'ira pas au Canada non plus. Bon, pour se baigner, c'est moins gênant.
Et puis Hülkenberg, franchement, ça me scotche. Hein. Il est devant Gasly, deuxième quand même à Montréal. Ouais. S'il présente son Q3, il sauve la mise pour Haas. Alors, cette dernière partie de grille, c'est du classique. Les pilotes fantômes Bottas et Joe sont 15e et 17e. C'est Alfa Romeo, quand même, ils ont subi une rétrogradation. C'est quand même assez net. Tsunoda est 16e, ce que je trouve pas gigantesque. Mmh. Je trouve qu'il n'arrive pas à percer. Là, il est dans sa troisième saison complète chez AlphaTauri. Il devrait pouvoir montrer autre chose quand même. Et puis après, à la fin, c'est Magnussen, De Vries et Sargeant. Et code d'alerte pour Magnussen, clairement 18e, qui se fait aussi déborder largement de 6 positions par Hülkenberg et c'est pour ça que son contrat est en suspens chez Haas l'an prochain.
Alors, par contre, Stéphane, on n'a juste pas noté la présence de Norris là. Où est-ce qu'il est ? Parce qu'il a quand même fait quelques belles qualifications ces derniers temps.
Alors, j'ai pas insisté, ou peut-être pas assez. 7e de cette qualif entre Russell et Perez, qui est quand même pas mal, entre deux grosses voitures pour la McLaren.
Devant une Red Bull.
Mal né en plus. Enfin, tout le monde est à peu près devant Checo Perez.
Ah, hein. T'es dur.
Enfin, c'est pas très difficile quand il est assez moyen quand même. Hein. Mais ouais, effectivement, et là, ce qu'on peut voir, bah justement, ça me donne l'occasion aussi de regarder un petit peu ce qui se passe sur les duels en qualif, parce que Norris illustre parfaitement ça. C'est l'un de ceux qui domine le plus son coéquipier en qualification. C'est du 10 contre 12. Face à Piastri.
Alors, 10-2.
10-2, pardon. Et le roi, c'est Albon qui a toujours battu Sargeant jusqu'à présent. Et dans les oppositions aussi nettes, il y a Verstappen par rapport à Perez, 10-2, de même que Alonso face à Stroll. Et puis Hülkenberg, on est à 9-3 par rapport à Magnussen. On voit qu'il n'y a pas match.
Ouais. Du côté de Norris Piastri, on va voir, ça va peut-être se rééquilibrer sur la deuxième partie de saison, hein, parce qu'il a montré des choses vraiment incroyables, le jeune Australien. Sur les rapports de force, il y a d'autres éléments que tu voulais nous donner.
Non, on l'a cité, Charles Leclerc a battu 8 fois Sainz en qualification, et puis c'est assez équilibré encore chez Mercedes, mais Lewis Hamilton a sérieusement repris le dessus par rapport à Russell.
Surtout depuis les évolutions. Hein.
Laborieux, exactement. Et puis, c'est 6 partout entre Gasly et Ocon chez Alpine.
Bon. Et ben voilà, cette grille de départ type, c'est toujours assez intéressant, hein, finalement, de voir qu'il y a des pilotes qui s'en sortent mieux en qualification, d'autres mieux en course. On pourra méditer tout cela pour les 3-4 prochaines semaines, hein, parce que maintenant, les Grands Prix vont faire une pause, reprise des hostilités le dernier week-end d'août, avec le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, qui aura lieu le 27 août. Les Fous du Volant reprendront juste avant pour faire le point avant cette 13e épreuve de l'année. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast, par Apple Podcast. Stéphane est en train de remettre sa bouée licorne. Oui. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Qu'est-ce que tu penses de mon maillot de bain, Stéphane ?
Ah, il est très saillant. Moi, je cherche mes palmes là, en ce moment-là. Lunettes de soleil et j'y vais. Vous oubliez.
Et on vous souhaite un bel été. Merci d'être avec nous. On va remercier aussi Marion qui travaille sur...
Et qui nous supporte.
Oui, aussi, un petit peu. Et qui n'est pas en maillot de bain. Non, on dit ça pour les esprits pervers. Et on vous retrouve donc...
C'est toi qui as pensé, moi j'ai pas du tout pensé.
Et on vous retrouve à la fin du mois d'août. D'ici là, Stéphane, on coupe le contact.